Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC jusqu'à 16h, 100% Bachelot, Roselyne Bachelot.
C'est l'heure de 100% Bachelot sur RMC. C'est l'heure de retrouver mon chéri adoré, aimé. C'est l'heure de retrouver mon petit Rémi Varré.
Mon soleil, bonjour Roselyne, bonjour à tous.
On prépare son petit week-end, cool?
Oh bah oui, il va faire beau partout.
Partout.
Alors on peut aller où on veut, il fera beau partout et il va faire beau.
Les merguez, le barbecue.
Voilà, tout de suite le cliché.
Eh oui, eh oui. Eh ben écoute, on va consacrer ce show 100% Bachelot à l'entreprise. Tu te rappelles, je présentais l'opération Première Chance pour promouvoir la création d'emplois. On est très attaché sur RMC à cette promotion de l'emploi, de la création, et en particulier d'aider des jeunes qui n'ont pas forcément eu des parcours prestigieux, des grandes écoles de commerce.
Ceux qui rentrent pas forcément dans les cases.
Exactement, ceux qui ne rentrent pas dans les cases, Rémi, c'est tout à fait ça. Et qui pourtant débordent de créativité, de courage, d'invention. Et puis il faut dire que dans notre pays, on leur tire vraiment dans les pattes. C'est un parcours du combattant, les démarches administratives, les formulaires auxquels on ne comprend rien, les dossiers incompréhensibles, les charges qui vous tombent dessus alors que vous n'avez pas commencé à gagner un sou, les contrôles tatillants. On a envie de dire, foutez la paix aux Français et à ceux qui créent. Tout ça, vous me dites vos expériences, vos solutions, bien sûr, au 3216, vous m'écrivez sur rmc.fr, sur bachelot_rmc.
On va donc parler du statut d'auto-entrepreneur.
Lancer sa propre affaire, devenir chef d'entreprise.
10 à 30% d'entrepreneurs échouent dans leur projet.
On ne s'invente pas entrepreneur comme ça. Il faut vraiment le vouloir parce qu'il y aura des difficultés, des challenges à relever, des moments durs.
La crise décourage un bon nombre de candidats entrepreneurs.
Je ne me plains pas, mais je dis seulement que par rapport aux heures faites aujourd'hui, je gagne moins ma vie que ce que je l'ai gagné il y a 7-8 ans.
En tant qu'employé. À
un moment, comme tout entrepreneur, on perd la motivation, on perd l'enthousiasme, on ne sait plus pourquoi.
La France doit miser sur ces jeunes qui entreprennent, qui créent des entreprises, qui créent des emplois. Et avec nous, je suis très heureuse de recevoir Absatoussi, mon ami Absatou, ma petite chérie, ma petite poulette. Non, je dis ça, je devrais dire, chère madame Absatoussi, comme je suis heureuse de vous recevoir ici au micro de RMC. Mais ce serait pas sincère. Voilà. Alors, Absatou, je vais te vouvoyer parce que il faut être dans les clous. Absatou, vous venez d'écrire un livre chez Duno, Parti de rien. Et vraiment, j'ai passé un très bon moment. D'abord parce que je vous ai retrouvé tel que vous êtes, avec votre spontanéité, votre fraîcheur, votre intelligence, mais aussi une histoire qui ne nous cache rien. Des difficultés, des échecs. Absatou, comment se fait-il que dans notre pays, les échecs ne sont pas considérés comme ce qu'ils devraient être, c'est-à-dire le fait de monter une marche, alors que par exemple dans des pays comme les États-Unis, on construit là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on est comme ça dans notre pays?
C'est vrai que c'est un vrai problème. D'ailleurs, on réalise qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont peur de se lancer, d'abord parce qu'ils ont peur de l'échec. C'est sûr que si on reste assis sur une chaise, on risque pas de tomber. À partir du moment où on se lève et qu'on essaye, alors on risque de tomber et c'est le risque de l'entrepreneur. Mais franchement, c'est une mentalité qui est vraiment très française, parce que effectivement, dans l'environnement anglo-saxon, il salue les personnes qui ont vécu l'échec. Ils recruteront toujours une personne qui a vécu l'échec plutôt que quelqu'un qui n'en a pas vécu, parce que l'échec est formateur, parce que l'échec est utile, parce que l'échec est vécu par tous les entrepreneurs qui ont réussi.
Alors, vas-y, Rémi.
Est-ce que, en quelques mots, Absatou, vous pouvez nous résumer votre parcours?
Alors moi,
vous connaissez pas encore forcément, donc.
Bien sûr. Alors moi, je suis entrepreneur depuis l'âge de 24 ans. Je viens d'une famille de 8 enfants où j'avais pas d'entrepreneur autour de moi, mais j'avais le plus grand pour moi, c'est mon père, parce qu'il avait tout quitté pour changer sa vie. Et pour moi, être entrepreneur, c'est d'abord décider de changer sa vie. Et c'est vrai que très tôt, je voulais être businesswoman. On me disait non, tu vas être chef d'entreprise. Je disais non, businesswoman, parce que chef d'entreprise, c'est la France. Businesswoman, c'est le monde. monde. Donc je suis businesswoman entre guillemets tôt, depuis l'âge de 24 ans.
À quel âge ?
Alors moi j'étais déjà dans le système débrouille depuis l'âge de 12 ans, mais j'ai monté ma boîte à 24 ans. J'ai eu jusqu'à 17 salons, une centaine de salariés et j'ai connu toutes les difficultés que vous racontez, Roselyne.
Alors ces difficultés, comment on le voit dans votre livre, où vous êtes là dans votre premier magasin et vous attendez les clients, il y a personne qui vient vous arracher les cheveux. Mais je voudrais, ça c'est effectivement ce qui arrive un peu à tout le monde quand on attend ses premières commandes, ses premiers clients. Mais moi ce qui m'a ce qui m'a pas épaté parce que je l'ai vécu aussi, c'est que finalement on nous met des bâtons dans les roues quand on veut créer son entreprise, hein.
Bah, disons que le côté administratif est un flingueur. Je vais y aller cash. C'est vrai que l'entrepreneur, plutôt que d'être occupé à développer sa vision, à développer son activité, à développer de l'emploi, il est en permanence sollicité pour gérer de l'administratif, Ça épuise. Ça tue cette ambition qu'on peut avoir, parce que nous, quand on est entrepreneur, on n'a pas envie de gérer de l'administratif au quotidien. On a envie de vivre des choses un peu plus excitantes. Et c'est vrai que entre l'inspection du travail, entre les différents organismes qui viennent vous rendre visite, il y a toujours des dossiers à préparer qui font des centaines de pages, et ça c'est vraiment, ça tue la croissance des petites boîtes, parce qu'on peut pas recruter des gens qui sont dédiés qu'à cela, et donc c'est l'entrepreneur qui le fait plutôt que de développer pour recruter.
Alors on a
Frédéric qui est chef d'entreprise et qui nous appelle au 3216 depuis la Seine-Maritime.
Bonjour Frédéric.
La Seine-Saint-Denis.
C'est un gars du 9-3. Bonjour Frédéric.
Bonjour Roselyne et bonjour à ton invité, bonjour à Rémi.
Alors Frédéric, vous êtes chef d'entreprise, ça vous parle ce que raconte Absatou sur ses difficultés, sur ce qu'elle a rencontré ?
Je me reconnais totalement en fait dans son parcours et dans son analyse pertinente, je dirais. Moi je suis plutôt dans un autre contexte, je dirais dans un autre domaine, puisqu'à la base, je suis dans l'événementiel, mais je me reconnais totalement dans ce qu'elle dit. Parce que la problématique, d'une part, de notre pays, et c'est ce que vous avez dit en préambule, Roselyne, c'est d'une part l'administratif. C'est que ce qui est quand même hallucinant dans notre pays, c'est que avant même de commencer à travailler, on commence déjà par payer.
C'est ça.
C'est quand même hallucinant, je pense, notamment lorsqu'on s'inscrit au RSI, X ou Y, voilà. Ça, c'est quand même, je dirais, pénalisant et c'est relativement décourageant. Après, il y a aussi la problématique du statut auto-entrepreneurial, qui a quand même certaines limites et qui a quand même beaucoup de limites, je dirais, en fonction des secteurs d'activité dans lesquels on évolue, puisque celui-ci, justement, est relativement limité au niveau des plafonds par rapport à l'activité que nous pouvons faire.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'entre le service à la personne, je dirais, ou autre, je dirais même du conseil, vous n'êtes pas du tout sur les mêmes plafonds. Donc on vous invite systématiquement déjà à imaginer et à penser et à migrer et à évoluer, soit vers une SASU, soit vers une SAS, soit vers une URL, soit vers une SARL, et là vous rentrez dans un rouillage administratif qui est interminable. Non. Et après, je dirais même que la problématique, et c'est ce que disait votre invité,
ouais,
habilement, je dirais, c'est que quand vous êtes jeune patron, eh ben vous préférez vous-même faire les tâches administratives parce que malheureusement, vous n'avez pas spécialement les fonds pour financer.
Et que tout ça
quelqu'un.
Est très cher.
Voilà. Et c'est surtout que gardons à l'esprit que nous sommes dans un pays où très peu de banques nous suivent.
Alors, Frédéric, alors là, on vient de faire un certain nombre de difficultés, les formulaires administratifs incompréhensibles, affreusement longs à faire, les charges qui tombent alors qu'on n'a pas un sou dans la caisse, et ça tape, et l'URSSAF, et le RSI, et le machin, le truc, etc. Les banques qui vous prêtent pas d'argent, tout ça, vous l'avez rencontré, Absatou.
Évidemment, moi j'ai rencontré les assignations au tribunal de commerce pour liquidation judiciaire faites par les URSSAF, justement. Donc c'est celle qui vous tue votre boîte finalement quand vous pouvez plus payer. Alors effectivement, faut payer, c'est normal. Mais on nous facilite pas la vie. Il y a pas de d'aisance à négocier avec eux. C'est toujours très difficile de discuter avec eux parce qu'on a affaire à des gens qui sont pas des entrepreneurs en face de nous, qui comprennent pas forcément ce qu'on vit. Donc ça c'est pas évident. La banque, le banquier n'est pas un entrepreneur. Le risque de l'entrepreneuriat appartient à l'entrepreneur et non pas au banquier. Le banquier, il gère sa boîte en s'imaginant le minimum de risque pour un maximum de profit. Donc c'est vrai que Il n'y a pas beaucoup de structures qui sont mises en place pour nous accompagner. Heureusement, on est en 2017 avec l'ère 2.0, où il y a des solutions de financement qui viennent d'arriver, qui se développent et qui aident des jeunes entrepreneurs à lancer leurs idées. Parce que sinon, on se dit que faut être riche, faut avoir de l'argent pour lancer une boîte.
C'est quand même
pas possible.
C'est un comble.
C'est un comble.
Mais ce qui est quand même un comble, parce que vous vous rendez compte au final que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup d'idées, où les jeunes ont beaucoup d'idées et que malheureusement ils sont freinés soit par une manque, soit par un manque de connaissances administratives au sens très large du terme, ou soit même ne serait-ce que par un manque de moyens qui est flagrant. Moi, je vais me permettre de vous donner mon exemple.
Allez-y, d'amour.
Parce qu'il est probant. J'ai aujourd'hui 36 ans. Depuis mes 20 ans, j'étais sous forme associative. Nous organisions des petits événements à droite, à gauche en France pour permettre justement à la jeunesse de pouvoir se développer, de se mettre en avant. À partir d'un moment, on s'est dit, tiens, on va créer notre petite SARL. J'ai été voir une banque. Je lui ai montré mes bilans qui étaient tous dans le vert, jamais un découvert, jamais un problème. J'ai fait une demande de prêt de 40 000 euros.
Oui.
Ça a été refusé.
Oui.
Alors que c'était 40 000 euros, moi je voulais tout simplement m'en servir, comme on dirait vulgairement, comme fonds de roulement.
Oui.
Mais qu'est-ce que j'ai fait, ma pauvre Zine? J'ai fermé ma société, j'ai été ouvrir exactement la même en Suisse, juste derrière la frontière. Et je me suis rendu compte que ces 40 000 euros, je les ai eus en même pas deux semaines. Je me suis rendu compte que maintenant, je paye que 5,5% d'impôts sur les sociétés versus 33,3% en France. Et pourtant, 99% de mon chiffre d'affaires se fait sur le compte
Frédéric, très bon exemple. Merci de nous l'avoir indiqué. Et on a alors là.
Une remarque, Afsatou, d'autant plus rageant ce qu'on vient d'entendre, parce que vous connaissez l'international. On vient de l'entendre avec notre auditeur. Dans Radio Brunet, l'émission qui précède 100% Bachelot, on a une rubrique qui s'appelle le français de l'étranger. On a très régulièrement des entrepreneurs qui nous appellent, donc de l'étranger, des Français qui connaissent les deux et qui nous disent c'est pas comme ça à l'étranger, c'est vraiment, on a l'impression que c'est unique, enfin quasiment unique à la France, cette lourdeur administrative.
Exactement, évidemment, et il y a des pays, il y a Londres qui ouvre, quoi, il y a l'Angleterre qui ouvre ses portes, mais ses bras grands ouverts pour les jeunes entrepreneurs français. On a tué le rêve français, on est en train de le tuer davantage. Les jeunes entrepreneurs français ont besoin de rêver, ont besoin de se rendre compte que c'est possible pour eux aussi, sauf que quand ils entendent tous ces témoignages, c'est étouffant. Donc ils se disent, attends, moi je vais aller tenter ma chance ailleurs, là où on me permet de vivre mon rêve, quitte à ce qu'il soit plus français.
Et Benjamin, donc.
Ben oui, alors lui, son rêve a été brisé. Bonjour Benjamin.
Bonjour Evelyne. Ah, pas totalement, je vous ai au téléphone.
Ah, je vous embrasse fort, Benjamin.
Vous pouvez vous reconvertir dans la drague, hein, c'est bon.
Ouais, non mais comme je suis un entrepreneur dans l'âme, j'ai forcément toujours dans le fond l'espoir que ça puisse marcher.
Alors racontez-nous ce qui vous est arrivé, Benjamin.
Mais c'est un peu, je suis dans la continuité de ce qui a été dit, parce que j'ai été dans le milieu associatif et aujourd'hui en France, quand on veut créer, c'est souvent les seules opportunités lorsqu'on a des idées pour les créer, les mettre en place, c'est l'associatif d'abord. Après, souvent en grandissant nous-mêmes avec l'âge, on va souvent sur du business et donc on crée souvent des entreprises. Moi j'en ai créé une dans la téléphonie, il s'est avéré que économiquement viable, donc moi j'ai perdu de l'argent en décidant moi-même de fermer ma boutique parce que
il fallait pas creuser les choses.
Voilà.
Ouais, d'accord.
Ça m'a coûté à peu près 50 000 euros. C'est quand même un budget qui sort de ma poche et que de ce côté-là, les banques vont pas m'aider, vont même derrière après m'enfoncer. Et je suis dans l'état d'esprit que vous dites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque je croise un jeune qui est très motivé, quand il voit mon parcours, et pourtant aujourd'hui j'essaie de faire des choses encore dans l'associatif et des gros événements, mais je peux pas lui dire vas-y, c'est simple, vas-y, tu vas y réussir. Je vais lui dire non, tu vas avoir des difficultés. Donc je vais être un peu pessimiste dans mon langage et ça va se comprendre par rapport à mon parcours. À la place, et je rejoins ce que vous disiez sur le fait à l'américaine du step by step, c'est-à-dire marche par marche, quand on a des échecs en France, et aujourd'hui je le vois quand je me pointe par rapport à des entretiens d'embauche dans les entreprises, on dit oui, mais vous avez été patron. Pourquoi aujourd'hui vous ne l'êtes plus? Parce qu'économiquement, à un moment donné, il a fallu changer. Ah oui, mais donc c'est un échec. Donc, on va peut-être pas vous faire confiance parce que vous nous tirez vers le bas avec votre échec. C'est pas votre expérience et qui permet que dans l'ordre des difficultés de votre parcours, vous avez réussi à maintenant avec l'expérience peut-être à avoir des solutions que nous n'avons pas. avec notre inexpérience de l'échec, on va dire plutôt, bah, non, si vous avez loupé quelque chose, c'est que vous êtes mauvais. Et donc, tout ça, bah, ça met un état d'esprit où quand on veut être entrepreneur aujourd'hui en France, on sait qu'on va avoir des difficultés, on n'est pas forcément motivé, et on s'isole en plus. Donc après, on se retrouve avec cette charge de travail, isolé, et c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de la France et de l'imagination et de l'image qu'avait la France, même à travers les arts, mais c'est-à-dire à l'état d'esprit, au côté intellectuel, bah non, on voit bien que les entrepreneurs qui pouvaient créer des richesses, bah aujourd'hui sont enfermés parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans les cases d'un système et donc sont à la marge, et de cette marge-là sont plutôt montrés du doigt que, on va dire, comme un épi dans un plat pour pouvoir le relever.
Merci Benjamin. Vous rejoignez tout à fait l'analyse que fait Absatoussi dans son livre Parti de rien, mais si on rencontre des difficultés, il y a aussi de très jolis moments. Moi j'ai beaucoup aimé ce que vous racontez sur votre famille, sur Vincent, l'homme de votre vie, parce qu'il est toujours là pour vous dire ah ouais, et de l'ambition, c'est normal, il y a des très jolis moments dans Parti de rien.
Oui, parce que Benjamin parlait tout de suite de l'isolement qui peut conduire au burn-out de l'entrepreneur, et ça ça a des conséquences extrêmement graves. Et puis parfois on est aussi soutenu, et moi pour le coup Vincent, c'est vrai, mon compagnon me soutient au quotidien, il croit en moi, il me stimule quand c'est difficile, il me dit mais vas-y, c'est normal, parce que finalement dans son parcours lui aussi il a eu à être ambitieux, il a eu à croire en lui à des moments où c'était difficile, il n'a pas connu le succès comme ça du jour au lendemain.
On peut dire que c'est Vincent Cerruti.
C'est Vincent Cerruti effectivement, qui TF1, le réveil chéri, voilà, petit instant promo, mais surtout voilà, c'est important de, quand on est en couple, de pas être en compétition, d'avoir quelqu'un qui nous soutient en face, parce que ça nous sort de cet isolement extrêmement difficile vraiment de l'entrepreneur, et c'est un sujet que j'aborde dans le livre, oui. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui viennent me voir et qui me disent vous n'imaginez pas comme je suis seule, parce qu'on s'enferme dans notre boulot, on va travailler 8, 7 heures du matin, 6 heures du matin jusqu'à minuit, 1 heure, on se dit juste pas une chose, parce qu'on est happé par le travail, c'est que de 18h à minuit on n'a pas du tout été productif, on aurait dû aller faire autre chose, comme un ordinateur qui sature et qui a besoin de libérer un peu d'espace disque pour aller plus vite, on a besoin d'aller faire autre chose, de se dépolluer le cerveau pour être plus efficace. Et ce qu'on a essayé de faire en 6 heures, on l'aurait fait en 1 heure en temps normal.
Eh ben donc ça, voilà. Il faut prendre son prendre avec soin Absatou, de soi aussi. Avec Absatou, on ouvre les solutions là.
Exactement. Ça y est, on va parler solutions maintenant.
On va
parler
solutions.
On a dressé un tableau bon, et qui n'est pas forcément hyper réjouissant pour ce qui est de la France. Il y a pas mal d'embûches, il y a pas mal d'obstacles.
Et merci à Benjamin d'être venu aussi nous le raconter.
Pas mal d'obstacles. Donc on va essayer de trouver maintenant des pistes en deuxième partie, des solutions, des idées et des expériences.
Il y en a.
Vous allez pouvoir en parler. Et les vôtres, vous nous appelez au 3216.
RMC, 15h-16h, 100% Bachelot.
Alors, française et français.
RMC jusqu'à 16h.
Les conditions de travail sont déplorables. Ouais. Vous entendez, déplorables.
100% Bachelot.
On n'en peut plus, on en a marre, la couche est pleine, il y a du beurre dans les haricots.
Roselyne Bachelot.
100% Bachelot. Et oui, c'est pas de la tarte. C'est souvent la galère que de créer son entreprise. On l'a vu, on a vu beaucoup de témoignages. Et puis surtout celui d'Absatoussi, qui sort un livre chez Duno, Parti de rien, où Absatou nous raconte ses heures et malheurs de chef d'entreprise, dans un livre rempli d'optimisme et bourré de conseils. Justement, des conseils, on en a besoin. Et on va démarrer tout de suite avec notre deuxième invité, Jean-Baptiste Danet, qui est président de Croissance Plus. Bonjour Jean-Baptiste Danet.
Bonjour Roselyne Bachelot.
Ça va ?
Très bien, et vous ?
Alors, mais ça va bien, Jean-Baptiste Danet, on a vu à travers le témoignage d'Absatoussi, mais aussi d'autres témoignages, que vraiment notre pays n'est pas un pays accueillant aux entrepreneurs, j'allais dire, pas du tout venant, parce que ce serait désagréable à leur endroit, mais qui n'ont pas fait des grandes écoles de commerce, et qui pourtant sont bourrés de créativité et de courage. Vraiment, on les aide pas dans notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Mais c'est compliqué de créer son entreprise, c'est compliqué de ne pas être sorti d'une grande école, ou ne pas avoir un parcours dont on pourrait dire qu'il est parfait. C'est compliqué de réparer l'ascenseur social, ça c'est certain. Bon, maintenant, ce qui est compliqué également, c'est d'accepter, ou en tout cas de comprendre que jamais les pouvoirs publics n'ont organisé la vie ou l'État en fonction de ce qui pouvait faciliter la vie des entreprises. C'est pas du tout la façon dont l'État procède ou les pouvoirs publics fonctionnent. Donc effectivement, c'est compliqué. Cependant, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise sont des gens optimistes. optimistes, sont des gens courageux, sont des gens qui regardent en fait la vie de l'entreprise avec énormément de volonté et d'énergie. Et c'est pour ça aussi que on peut dire qu'en France, il y a un peu plus de 15 millions d'entrepreneurs.
Alors, je posais la même question à Absa Toussi et Jean-Baptiste Danet. Vous êtes ministre en charge des entreprises. Jean-Baptiste Danet, votre première mesure pour faciliter la création d'entreprises, votre première mesure, Jean-Baptiste Danet, Absa Toussi, vous, dans une minute, la parole est à vous. C'est comme dans le débat sur BFM. Jean-Baptiste Danet, votre première mesure pour faciliter la création d'entreprises et donc d'emplois.
Mais je ne peux pas rester sur une seule mesure. Je vais vous en donner trois très rapidement.
D'accord, allons-y.
Simplification du code du travail. Donc, plus facile d'embaucher, plus facile également de définir un pré-contrat entre l'employeur et le salarié en fonction de la réussite de ce contrat.
Donc, bon, première chose. Voilà.
Deuxième chose, le financement des entreprises. Être capable de dire aujourd'hui, de mettre en place, que ce soit par du crowdlending, que ce soit par du financement, que ce soit par du système bancaire, de faire en sorte que l'entreprise puisse être financée pour pouvoir démarrer et assurer sa première année. Troisième point, la fiscalité. Cette fiscalité qui doit considérer que l'entreprise ne commencera à payer des charges que quand elle aura réalisé ses premiers profits. Donc, CVAE, il faut absolument revoir tout ça. Il faut revoir les charges sociales, les charges qui pèsent sur l'entreprise tant qu'elle n'a pas réalisé ses premiers profits. Il faut donner la première année. Il faut offrir l'opportunité de réussir la première année à l'entrepreneur.
Alors, Absa Toussi.
Je suis assez d'accord avec ce que vient de proposer M. Danet. J'ajouterais juste que ce qui serait bien, c'est que de faire en sorte que l'entrepreneuriat soit enseigné dès le plus jeune âge à l'école. Qu'on explique aux jeunes que de devenir patron, c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, on nous explique que devenir patron, c'est être contre les salariés, c'est être riche, c'est profiter du système. On a une image quand même très négative.
Ah bah, justement, est-ce que c'est pas ça le problème en France? C'est qu'on on est prisonnier d'un dogmatisme au lieu d'être pratique, c'est l'entreprise forcément, c'est des idéologies comme vous dites, on a vu bon après ça a été contesté, mais au niveau de l'éducation nationale, dans les cours d'économie, on parlait plus des marchés par exemple, enfin,
c'est une aberration. Il faut faire en sorte de revaloriser le travail, de valoriser la création d'entreprise dès le plus jeune âge. Dans des cultures anglo-saxonnes, on le fait, donc on explique qu'être patron c'est bien, et en fait, on a l'impression aujourd'hui que le patron c'est le mec, pardon, je parle un peu brut, mais avec le costume du CAC 40. Mais non, ceux qui font l'économie, c'est les petits artisans, c'est les petits commerçants, c'est les petites entreprises. C'est tout cela qui galère et que les gens ne peuvent qu'aimer parce qu'ils font partie de leur quotidien. Donc, c'est pas forcément cette image de société.
De profiteur.
Voilà, de profiteur qui profite de la fiscalité, des défaillances d'ailleurs, de certaines défaillances de l'État qui permettent aux grandes boîtes comme ça, effectivement, de profiter de la fiscalité. Ce sont des jeunes. Des gens, pas forcément jeunes, on peut être jeune entrepreneur à 60 ans, cela dit, si on décide de monter sa première boîte à 60 ans. Mais voilà, ce sont des gens qui se battent au quotidien pour rendre la vie des gens aussi meilleure, qui travaillent, et c'est pas facile pour eux non plus.
Tout de suite, on a David.
David nous appelle au 3216, il habite Paris.
Bonjour David.
Bonjour Rosine, bonjour messieurs, dames.
Alors David, vos solutions, qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre pays ait le goût de l'entreprise? On a déjà vu certaines avec Jean-Baptiste Danet et Absa Toussi. Si, mais vous, votre solution, David?
Alors, moi, je vous explique. Moi, j'ai une agence de communication dont je vous ai déjà parlé, Rosine, qui passe dans le fournier, qui s'appelle Les Bavardes.
C'est bien ça. On va s'inscrire, Absa Toussi et moi.
Et qui est une agence de communication qui parle des solutions qu'on peut avoir pour communiquer. Donc, en fait, je me suis dit, toi, tu as du réseau, toi, tu as des gens qui te connaissent, toi, tu as du monde autour de toi, donc monter ta boîte, c'est pas si compliqué que ça. Et puis, je me suis rendu compte au fur et à mesure que le réseau, c'est bien, mais que ça suffit pas. Donc, il faut trouver des clients qui sont pas forcément dans notre réseau direct. Donc, il faut aller chercher des clients. Et là, ça devient plus difficile parce que, il faut aller trouver des clients. Et j'ai pensé un jour, et je me suis dit, mais il n'y a rien qui existe aujourd'hui pour les entrepreneurs. Il n'y a pas de réseau entrepreneurial. En tout cas, j'en ai pas trouvé sur Internet. Et donc, je me suis dit, ce serait intéressant de juste poster un petit message sur LinkedIn où j'ai pas mal de réseaux puisque j'ai plus de 7000 et quelques personnes sur LinkedIn. Je me suis dit, je vais poster un petit message en disant voilà, vous êtes entrepreneur, vous avez envie de connaître d'autres entrepreneurs et de faire du business. Eh ben, moi, je vais créer un groupe WhatsApp et sur ce groupe WhatsApp, vous allez pouvoir vous rencontrer, discuter, parler et voir ce que vous pouvez faire.
Donc votre solution, David, c'est de créer une sorte de réseau, de confraternité. Absatou, elle a pas l'air trop d'accord, David. Je la fais réagir. Non, vous restez avec
nous. Non, je suis d'accord, mais ça existe. Il y a beaucoup de réseaux comme ça qui se font. Nous, on fait des soirées ambition aussi. Il y a beaucoup de réseaux d'entrepreneurs. La question, c'est de se dire aussi que ces réseaux soient accessibles à tous. Aujourd'hui, les jeunes issus notamment de entre guillemets de quartiers n'ont pas forcément accès à tous ces réseaux qui leur seraient utiles. On parlait de l'école, de Monsieur Danet parlait tout à l'heure du schéma parfait, de la scolarité parfaite. La meilleure école, c'est l'école de la vie. Le meilleur réseau, c'est celui qu'on se construit tout au long d'une vie. Et il faut que ces réseaux qui sont assez exclusifs parfois ouvrent leurs portes aussi à d'autres jeunes qui ne viennent pas des parcours scolaires qui sont forcément ceux qu'on qualifie de parfaits et qui sont loin d'être parfaits.
Jean-Baptiste Danet, qu'est-ce que vous pensez de ce réseautage? C'est une solution à part les trois que vous nous avez données qui sont structurantes. Cette question de créer une communauté, c'est une bonne formule?
Alors, bien sûr, c'est toujours une bonne formule. Et en tout cas, tout ce qui contribuera à développer l'entrepreneuriat en France, bien évidemment, ce sont toujours des bonnes solutions. Il faut quand même repartir du point de départ, de ce que vous disiez, Roselyne Bachelot, tout à l'heure. C'est que effectivement, à l'école, on n'inculque pas, on n'enseigne pas le fait que la prise de risque et l'entreprise, c'est quelque chose de vertueux. Deuxièmement, on n'enseigne pas que l'entreprise, c'est l'endroit, malgré tout, aujourd'hui, dans notre pays, où on met les gens ensemble, où on réconcilie les gens, où on leur permet d'avoir un travail, où on leur permet de se cultiver, d'apprendre des choses et de découvrir des choses de la vie. Dernièrement, nous, Croissance Plus, on attache une importance extrêmement importante à aider ce que vous disiez tout à l'heure, Absatou, des gens qui sont soit, j'aime pas du tout cette expression, des quartiers, mais enfin,
moi non plus.
Utilisons-la.
Ouais, ouais.
Je peux vous dire que nous, on y a participé beaucoup. On a créé avec François Bergerot, qui est vice-président de Croissance Plus, un jour un truc qui s'appelait la chicha des entrepreneurs. On allait dans les quartiers, écouter des jeunes qui avaient des business models à nous proposer. Et d'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler de là. Sont sortis, ont émergé deux ou trois entreprises qui ont maintenant considérablement développé leur modèle. Enfin, je crois que si on considère que l'entrepreneur est quelqu'un qui est au cœur des problèmes sociétaux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui participe activement au fait de développer le pays, je pense que l'entrepreneur doit s'impliquer dans des associations et doit s'impliquer dans le fait d'être sûr de créer de l'emploi, de partager les fruits de la croissance, d'éduquer à la prise de risque et de développer l'envie de chacun de ces jeunes à créer l'entreprise, à rejoindre l'entreprise.
Et nous, entrepreneurs, pardon Roselyne, on doit aussi dire que c'est difficile. On ne doit pas témoigner en disant juste c'est formidable, c'est super, les réussites entrepreneuriales, on les voit, on croit que c'est formidable, mais on se doit d'aller témoigner auprès de ces jeunes que c'est formidable, mais que ça va être difficile.
Il va falloir se sortir. Ouais. Alors, merci à Jean-Baptiste Danet pour toutes les bonnes pistes qu'il nous a données. Et nous Eric, alors il a décidé de gueuler. Eric n'est pas du tout d'accord. Bonjour Eric.
Il est en train d'entreprendre une entreprise de démolition là. Attention.
Eric, bonjour.
Bonjour, enchanté Roselyne. Bonjour tout le monde. Je vais vous calmer tout de suite. Je suis à moitié suisse, donc chez moi on ne gueule jamais. Pour le coup, je vous écoute depuis tout à l'heure. Moi, j'ai un parcours qui est très simple. J'ai quitté l'école à 17 ans. À 20 ans, j'étais cadre dans un grand groupe de radio, que je ne citerai pas le nom.
Non, pas la concurrence,
voilà,
allez-y.
Sans avoir fait aucune étude, j'ai quitté ce groupe de radio, j'ai monté ma première boîte que j'ai pliée. Donc j'ai connu tous les bonheurs de la banque qui vous ferme la porte, des huissiers, j'ai absolument tout perdu. Et j'ai remonté une deuxième boîte et l'expérience est intéressante puisque j'emploie aujourd'hui des personnes dans 8 pays européens différents. Ce que je voulais dire, c'est que...
C'est partout pareil, vous voulez dire?
Non.
Si. Mais alors, à chaque fois, on va parler de l'Angleterre, évidemment. Mais allez entreprendre en Allemagne. Moi, ma société, on a essayé d'aller s'installer en Allemagne. Autant vous le dire tout de suite, c'est extrêmement compliqué, voire impossible. Ils sont psychorigides. Allez employer des gens en Autriche. Vous allez comprendre ce que c'est que des charges sociales extrêmement élevées. Je ne suis pas en train de dire que c'est merveilleux.
Oui, attends, mais Absatou vous dit quelque chose de très juste, Eric. Il ne faut peut-être pas se comparer au pire.
Non, mais c'est pourtant ce que vous faites depuis le début.
Non, on a juste pris l'exemple de l'Angleterre.
Non mais depuis le début, j'entends oulala, la France c'est compliqué, la France ne donne pas sa chance, la France non, effectivement, on n'est pas dans un monde de bisounours, effectivement, c'est pas simple. Et je vous rejoins complètement. Il faut dire, et moi c'est ce que je fais quand je rencontre des jeunes qui veulent entreprendre, j'essaye justement de les accompagner, j'essaye justement de les aider. Et la première chose que je leur dis, c'est pas simple. Et lorsque j'entendais le discours au départ, j'avais un peu l'impression de personnes qui se disaient super, je vais entreprendre. Ça va être génial. Non, c'est pas vrai.
Non mais Eric, je vous arrête. Le problème, c'est pas effectivement de se dire que c'est impossible. C'est de se dire, il y a des pays peut-être qui nous montrent l'exemple. Pourquoi on ne le ferait pas? On va pas imiter ceux qui marchent moins bien que nous. Essayons d'imiter ceux qui marchent le mieux. On n'est pas au top quand même, Eric.
Je suis complètement d'accord avec vous là-dessus. Simplement, mon intervention, elle est sur le. Si on arrêtait juste deux secondes le French bashing, tout n'est pas parfait, mais rien n'est parfait nulle part. Et la France n'est pas si mal lotie que ça.
Eric, on ne fait pas du French bashing. Moi, je dis toujours que je vis un rêve français. Alors, c'est pas le rêve français, mais je vis un rêve français. J'ai eu la chance de créer ma boîte en France, d'aller à l'école gratuitement, d'évoluer dans un environnement où aujourd'hui, je peux dire que je suis une femme libre à 36 ans après avoir vécu 12 ans d'entrepreneuriat avec toutes ces galères. Évidemment, on peut pas dire que l'environnement entrepreneurial français, c'est le monde des bisounours. On peut pas le dire non plus. On doit alerter les pouvoirs publics sur quelque chose qui semble assez éloigné de leurs priorités, parce qu'en fait, si ils acceptaient à un moment de se dire que nous créons l'économie qui peut nous sortir de la galère, alors peut-être qu'ils s'intéresseraient plus au cas des jeunes entrepreneurs, quoi, des entrepreneurs tout court qui galèrent au quotidien, qui se plaignent et qu'on n'entend pas vraiment. À chaque fois qu'il y a des négociations, on entend des négociations 4-40, etc. C'est pas le quotidien de ce que vous avez vécu ou de ce que j'ai vécu moi-même. Donc voilà, on fait pas du French bashing. Moi, je suis ravie d'être en France, de créer une boîte en France, d'avoir créé autant d'emplois en France. On dit juste que c'est bien d'aller voir ailleurs ce qui se fait de mieux et pas forcément ce qui se fait moins bien, et d'essayer, et je le disais tout de suite, d'expliquer aussi à nos jeunes que pour réussir, de toute façon, il faut souffrir. C'est impératif.
Merci Eric. Absatou, si je rappelle le titre de votre livre, Parti de rien, vous nous avez pratiquement réservé la primauté dans 100% Bachelot de ce livre. Alors, je vais vous dire, il faut l'acheter. Parce que d'abord, ceux qui veulent créer leur entreprise vont avoir plein de conseils. Mais au-delà, ça intéresse tout le monde parce que c'est un parcours humain, tendre et positif. C'est un livre qui vous regonfle. Donc, Parti de rien, Absatoussi chez Duno. Merci Absatou d'avoir partagé ce moment avec nous.
Et rien entre guillemets, parce qu'on ne part jamais de rien. On a tous la force de notre histoire.
Merci Absatou.
On a trouvé pas mal de pistes. Allez, j'en donne quelques-unes. La réforme du code du travail pour faciliter l'embauche par la signature d'un contrat plus simplifié entre l'employeur et les salariés, la baisse des charges, on l'a dit, tout le monde n'est pas d'accord, mais enfin bon, quand même, beaucoup beaucoup sont d'accord, et puis faciliter le financement des entreprises, surtout au début, lorsqu'elles se créent la première année d'existence, ou encore enseigner l'entrepreneuriat dès le plus jeune âge. C'est pas mal tout ça.
C'est pas mal, il y a du taf.
Et tout de suite, c'est vous qui faites l'actu avec Rémi Barré.
RMC 100% Bachelot.
Moi, je me suis dit, Rosy n'a pas parlé de ça.
RMC.
C'est un problème, en fait, votre positionnement.
Ça m'a fait réagir.
100% Bachelot.
Rosy n'a pas parlé de ça. Je ne suis pas d'accord avec toi.
C'est vous qui faites l'actu.
On n'a pas parlé de ça.
C'est vous qui faites l'actu comme chaque jour, 100% Bachelot sur RMC. Vous nous appelez au 3216 pour nous faire part de ce qui vous intéresse dans l'actualité du jour. Alors, aujourd'hui, forcément, Manon Borgé est avec moi. Bonjour Manon.
Salut Rémi, bonjour à tous.
L'actualité très particulière. Nous sommes au lendemain, quelques heures après les attentats commis en Espagne, et nous allons évidemment parler de ça, de ce qui s'est passé hier en Catalogne. Et nous avons choisi là, durant ce quart d'heure, de parler, Manon, d'un angle bien particulier, celui du tourisme. Alors, ça peut paraître un peu indécent, on est quelques heures après l'attentat, évidemment on n'ignore pas évidemment la douleur des victimes, des familles, de ce qui s'est passé, mais c'est pas rien le tourisme en Espagne. On a vu lors de l'attentat de Nice les conséquences qu'il y a eu ensuite pour la ville. Tu es niçoise d'origine, Manon, et on en a beaucoup parlé sur RMC des conséquences. C'est la vie quotidienne des Niçois, le tourisme, et forcément pour les Barcelonais, c'est aussi la vie quotidienne. J'ai regardé là, quelques chiffres. Le tourisme en Espagne, c'est 11% du PIB, c'est un emploi sur 8 en Espagne.
C'est énorme.
Et Barcelone, c'est Il y a eu 75 millions de touristes l'an passé en Espagne, 33 millions, plus de 33 millions, rien qu'à Barcelone. Donc évidemment, ce qui s'est passé ces dernières heures, ça va avoir des conséquences et on va en parler, Manon.
Oui, évidemment, pour en parler avec nous, hein, c'est très simple. Hein, vous faites le 32-16, hein, vous nous dites, vous nous donnez votre avis. Et puis c'est Julien qui nous a appelé. Julien, il a 33 ans, il est cadre à Rennes.
Bonjour Julien. Bonjour Julien, bienvenue sur RMC.
Merci, bonjour à tous les deux.
Alors vous voulez nous parler de ce sujet, de ce qui s'est passé ces dernières heures?
Oui, pour dire deux choses par rapport au tourisme et puis par rapport à ce qui s'est passé de façon plus précise sur Barcelone. Au-delà de la compassion et au-delà du drame qui s'est passé hier à Barcelone, moi j'ai quand même un sentiment un tout petit peu amer par rapport à ce qui s'est passé, parce que je pense que ça aurait pu être évité pour une simple et bonne raison. Moi j'ai la chance d'aller à Barcelone à titre personnel pour mes vacances, j'y suis allé l'été dernier, puis aussi à titre professionnel puisque je travaille dans le tourisme d'affaires, et à chaque fois que j'y retourne et que je vais sur la Ramblas, je me dis quand même, ça manque de sécurité, c'est-à-dire que si vous prenez aujourd'hui une voiture et que vous êtes place de Catalogne, vous pouvez tout à fait monter sur le trottoir, qui n'est pas plus surélevé que ça, et vous pouvez tout à fait, malheureusement, descendre la Ramblas et faire beaucoup de victimes. C'est le cas aussi quand vous descendez la Ramblas sur l'avenue de droite, direction le port, à différents feux, à différentes intersections, vous avez la possibilité de monter sur le terre-plein et de regagner le centre de la Ramblas, et encore une fois, malheureusement, d'être mélangé à la foule avec votre véhicule. Donc, c'était presque prévisible, malheureusement. Et si moi, qui suis un citoyen lambda, avec un minimum de réflexion, on arrive à voir ce qui peut potentiellement se passer, je suis quand même un tout petit peu étonné que les autorités à Barcelone...
Mais vous, Julien, vous nous avez dit que vous travailliez dans le tourisme d'affaires. Est-ce que, justement, dans votre travail, vous continuez d'aller dans les villes qui ont été touchées? Je pense à Berlin, à Nice, à Londres, maintenant à Barcelone. Est-ce que vos clients continuent de vous dire « Oui, ok, on est d'accord pour aller dans telle ville ?»
Alors sur les destinations que vous venez de mentionner, il n'y a pas encore trop de problèmes. Malheureusement, les clients, eux, ne souhaitent plus aller sur des destinations qui sont plutôt maintenant autour de la Méditerranée, c'est-à-dire plutôt le Maghreb.
La Tunisie en
particulier. Le Maroc,
notamment.
Exactement, la Tunisie en particulier. Le Maroc est encore un peu épargné.
Mais justement,
s'il y a eu...
Vous le savez, Julien, puisque vous êtes professionnel du tourisme. Justement, on le sait depuis, je ne sais pas exactement depuis combien de temps, mais de quelques années, 3-4 ans, je dirais. Il y a de plus en plus de touristes en Espagne. L'Espagne a battu l'an passé son record de fréquentation touristique. La France a été très particulière puisqu'on a eu les attentats, mais en fait la clientèle qui allait en vacances dans le Maghreb, vous en parliez, s'est reportée notamment sur l'Espagne, sur l'Italie, etc. Est-ce que, enfin, on en est où? Parce qu'aujourd'hui il y a l'Espagne, il y a eu la France, les touristes, ils vont aller où, et est-ce qu'il n'y a pas une vraie crainte?
C'est exactement une réflexion qu'on a, nous, dans le tourisme d'affaires, puisque nos clients sont des entreprises qui souhaitent voyager pour leurs séminaires, leurs conventions, leurs voyages de récompense un peu partout dans le monde. Malheureusement, sans faire d'ironie ni de mauvais humour, on va dire, on manque de destinations, entre guillemets, maintenant, puisqu'on ne peut plus aller au Maghreb, c'est-à-dire Maroc, Algérie, Tunisie, et même au-delà, l'Égypte, qui est un pays qui souffre énormément du fait que son tourisme soit touché. Et du coup, les destinations commencent à manquer, entre guillemets, puisque les entreprises voyagent beaucoup et depuis des années. Elles veulent de l'originalité, etc. Mais elles veulent toujours voyager en sécurité. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est difficile de trouver des compromis pour nos clients qui soient des destinations originales, sûres et qui permettent de ne pas partir trop loin, trop cher, trop longtemps, puisqu'il y a aussi la dimension budgétaire qui est importante pour les entreprises quand elles font ces événements.
Est-ce que vous avez des entreprises qui, du coup, vous disent « Bon, c'est fini, on ne fera plus de voyage d'affaires, on arrête tout ?»
Non. Par contre, elles sont plus exigeantes sur les destinations. Elles vont peut-être partir sur des destinations moins exotiques. Elles vont peut-être partir moins longtemps, encore que ça, c'est pour des questions budgétaires. Mais c'est vrai qu'elles cherchent vraiment la sécurité. Du coup, les pays qui aujourd'hui profitent, entre guillemets, malheureusement, de la situation actuelle, c'est les pays du Nord, c'est-à-dire Norvège, Suède, Finlande. Il y a beaucoup de choses qui se font en Islande, à Reykjavik. Il y a beaucoup de choses qui se font au Danemark. Marque également, Pays-Bas, Irlande.
En tout cas, on a compris, c'est une réalité, vous le confirmez, Julien, c'est que c'est dramatique forcément, mais que le tourisme se déplace en fonction de l'actualité, quoi.
Exactement, exactement. Mais aujourd'hui, c'est pas nous qui empêchons nos clients, entre guillemets, d'aller sur telle ou telle destination.
Mais de toute façon, et j'imagine que vous séparez Julien, on comprend cette crainte, on comprend cette peur. Une entreprise, elle tient au bien-être de ses salariés.
Vous emmenez vos
forcément.
Collaborateurs en séminaire pour les récompenser d'une bonne année passée. Vous avez envie quand même que tous vos collaborateurs soient en sécurité et que tout se passe bien.
Merci en tout cas, Julien, de nous avoir appelé au 32-16, Manon.
Et puis, on accueille Mourad. Mourad, il nous appelle des Hauts-de-Seine. Et Mourad, c'est un grand voyageur, donc on va lui demander, est-ce qu'il continuera d'aller à Barcelone ?
Bonjour Mourad, bienvenue sur RMC.
Bonjour à vous.
Alors, Manon vous a posé une question directe. Est-ce que vous continuerez à aller en Espagne, notamment à Barcelone ?
Ouais, bien sûr. Moi, je ne changerai pas mes habitudes.
Ça ne vous fait pas peur ? Vous n'avez pas peur ou alors vous affrontez cette peur ?
Non, j'ai pas, sans prétention, je n'ai pas peur du tout. Après, c'est peut-être que ces personnes veulent faire. Ces gens-là veulent terroriser les gens et veulent changer nos habitudes. Si on commence à ne plus voyager dans un endroit, ce que vous disiez tout à l'heure, on s'est déplacé un peu, on parlait du Maroc, Tunisie, Algérie, on s'est déplacé vers l'Italie, l'Espagne, maintenant que ça pète en Espagne, ça va se rediriger vers d'autres pays.
C'est un éternel recommencement.
On peut pas se permettre de se dire, voilà, on va pas aller à Barcelone aujourd'hui, ce mois-ci, parce qu'il y a eu un attentat, le mois prochain ce sera en Italie, dans 3 mois ce sera en Autriche, puis très très souvent, juste après un attentat, la zone est vraiment très 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 sécurisée. Hein. Je travaille également dans le tourisme, et je peux vous assurer que à court terme, on voit un impact, à très court terme, mais si vous voulez, chaque attentat étouffe l'attentat précédent. Si vous voulez, là, les gens ont en tête Barcelone, mais ont déjà oublié ce qui s'est passé il y a 2 ans, 3 ans. Donc ils repartent dans les destinations où il y a eu des attentats il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, donc ça tourne en boucle en fait.
Vous, ça a changé aucune de vos habitudes de voyage ?
Aucune de mes habitudes. Après, il y a le facteur destin. Si on doit mourir, on doit mourir. Mais ça a vraiment changé.
C'est ce que j'allais dire. Vous venez de le prouver. J'allais dire, vous êtes assez fataliste, en fait.
Non, réaliste. On est plus sur un format de guerre. Comme ce qu'on dit souvent, on est à l'aube d'une troisième guerre mondiale. Nous, on pense aux tranchées, comme en 39-45 ou en 14-18. En fait, on est en plein dedans. C'est quoi le nouveau format ? C'est des bombardements ciblés de pays européens ou américains, et en réponse, on a des attentats sur nos terres. Mmh. Ça va être comme ça pendant encore très 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 longtemps. Mmh. Donc on bombarde des pays pour des raisons X, et on a une réponse. Mmh. Ça peut être chez nous, ça peut être en Espagne, ça peut être en Italie, ça peut être aux États-Unis, mais c'est par intermittence. C'est une guerre par intermittence. Là, on va être au calme pendant 2 mois, et dans 2 mois, ça va sauter, mais en Espagne, ils vont changer, ils vont revenir chez nous.
Merci en tout cas Mourad de nous avoir appelé au 32-16. Manon,
Et puis juste avant de donner la parole à Franck qui lui aussi a fait le 32-16, je voulais juste vous lire ce message de Nicolas qui est sur la même ligne que Mourad. Il nous le dit: bonjour, je pars en famille en vacances en Espagne la semaine prochaine et je passe 2 jours à Barcelone et rien ni personne ne m'empêchera d'y aller, surtout pas des de djihadistes. Toutes mes pensées vont aux Barcelonais. Voilà, ça c'est ce petit message de Nicolas. Et donc du coup, comme je disais, on accueille Franck, il est commerçant et il nous appelle de Lyon.
Bonjour Franck.
Oui, bonjour à tout le monde.
Alors vous vouliez également réagir sur sur les événements de Barcelone et la Catalogne.
Voilà, avant tout je voudrais présenter mes condoléances à toutes les familles des victimes et bon courage à tous les gens qui sont blessés. Alors moi, non, je suis comme Mourad, je ne changerai pas mes habitudes de voyage. Je voyage énormément, donc aux États-Unis, un peu de partout. Il n'y a qu'en Égypte que je ne suis pas retourné, pour les raisons évidentes. Malgré que j'ai des clients moi qui ont été en Égypte cette année et qui ont le pays est très sécurisé. Ouais, c'est vrai que c'est pas très agréable d'être sur la plage avec des hommes en armes, mais bon, il est très sécurisé, etc. Maintenant, oui, le mot fataliste, oui, c'est ce qui est employé. Moi, je suis fataliste.
Vous êtes particulièrement touché par ce qui s'est passé à Barcelone ?
Touché, non, j'ai de la famille, moi. Espagne,
sensible,
oui, absolument, absolument. Et là où je m'interroge plutôt, c'est sur Cambril. Parce que vous voyez,
la station balnéaire, la station balnéaire où quelques heures plus tard, des hommes ont tenté au bord d'une voiture de foncer dans la foule avant finalement d'être, ils ont fait quelques blessés, mais ils ont été finalement abattus. Il y avait 5 hommes abattus par les forces de l'ordre. Ouais.
Absolument. Moi, je m'interroge sur l'objectif à Cambril. Parce que Cambril, c'est une petite ville au sud de Tarragone. Il n'y a pas grand chose. Par contre, un peu plus haut, il y a Port-Aventura. Et je pense que l'enquête nous dira que je me demande s'il y avait vraiment l'objectif, c'était Cambril.
C'est difficile de répondre, effectivement, vous l'avez dit, l'enquête, elle est en cours. Est-ce que c'était...
Maintenant, excusez-moi, mais moi, il y a une chose qui m'énerve, j'en ai marre de pleurer. Là. Moi, je voudrais bien voir des actes forts, déjà dans notre pays, en France, et au niveau européen. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien
je comprends, moi, les bougies, je comprends les fleurs, je comprends les pleurs, je comprends tout. Mais maintenant, ça suffit. Maintenant, il faut des actes forts.
Et moi, les gouvernements. C'est quoi des actes forts?
Des actes forts, ben déjà c'est au niveau de la sécurité en France. Moi je vais vous donner un exemple bien précis. Il y a un quartier qui s'appelle La Duchère à Lyon. Il y a une salle de prière à la Duchère à Lyon. Tout le monde sait ce qui se passe là-dedans. Tout le monde sait. J'ai des amis qui sont à la BAC, etc. Elle n'est pas fermée, cette salle. Cette salle de prière n'est pas fermée. Donc à un moment donné,
Vous avez vraiment le sentiment qu'on n'en fait pas assez
Monsieur, écoutez. Donnez-moi votre sentiment, vous. Soyez pour une fois,
je pense que c'est. Je pense que c'est pas toujours aussi simple que ça parce que.
Non mais je vous parle pas de simplicité.
Non mais attendez.
Je vous parle pas de choses simples.
Attendez, je vais essayer de répondre. Mais si vous me posez la question, mais je vais essayer de vous répondre. Mais en fait, Franck, je pense que parfois on réagit à brûle-pourpoint comme ça émotionnellement. Mais je veux donner un exemple très concret. Vous savez, sur les réseaux sociaux, on dit parfois il y a des djihadistes qui s'expriment sur les réseaux sociaux. On comprend pas pourquoi on les interdit pas. Mais parce que si on coupe le robinet, on peut plus les suivre, on peut plus les surveiller. Je parle des services de renseignement, évidemment.
Oui, mais ça marche pas. Excusez-moi, ça ne marche pas. À un moment donné, ça ne marche plus, ça. À un moment donné, il va falloir passer à autre chose.
C'est risqué.
Mais non, mais c'est risqué, mais pourquoi pas prendre le risque? Puisque vous voyez, vous vous rendez compte, dans l'année, combien de fois on a eu les mêmes conversations tous ensemble?
Oui, c'est vrai,
donc,
mais
bien sûr. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc il faut changer la méthode. À un moment donné, regardez, moi je suis désolé, comme on arrive à infiltrer les réseaux pédophiles sur les sites internet, à fermer tout ça, et qu'on n'arrive pas pour les djihadistes, faut arrêter tout ça. Je pense qu'on est dans l'hypocrisie totale. À un moment donné, ça nous dessert tout ça. Je veux bien, moi, comme vous dites, pour les suivre, etc. Mais à un moment donné, il faut taper fort, il faut arrêter les gens qui sont menaçants, qui viennent menaçants. Il faut les arrêter, les interroger. Ces gens-là, il faut les mettre à part.
Compris, Franck. Merci beaucoup de nous avoir appelés au 3216. Et on entend cette colère, mais on la comprend. Il y a la douleur, il y a la colère, forcément. Voilà, merci à Franck de nous avoir appelé tout de suite. Jean-François Morel.
Ah oui, l'intégral foot.
Bah exactement. Bonsoir à tous. Je vais essayer de ramener un petit peu de sourire dans une actualité qui est compliquée. Il y aura un hommage au week-end à Barcelone un dimanche pour évidemment les victimes.
Et puis j'ai vu tout à l'heure que tous les matchs du championnat de France allaient commencer par une minute de silence ce week-end.
Ouais. Aussi, oui, bien sûr, en hommage à tout ce qui s'est passé avec cet horrible attentat du côté de la Catalogne. Mais nous, on va commencer
par parler de Metz et de Monaco.
Et évidemment, ce soir 20h45, le début de la troisième journée de Ligue 1. On vous attend sur le hashtag RMC Live et également au 32-16. Puis on aura également de 17h à 18h un grand tour d'Europe parce que ça commence le championnat en Espagne, en Italie, en Allemagne. Il y a la deuxième journée en Angleterre. Et juste après les infos de 17h, on aura en direct avec nous l'entraîneur de Toulouse, Pascal Duprat. Car dimanche à 21h, il y aura PSG Toulouse. Donc que va-t-il faire contre Neymar? Il nous le dira.
À tout de suite.